Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde. Quatrième épisode, Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda.
Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres.
Avec Bernard Bastide et Brigitte Rollet.
N'arrêtez pas pour regarder l'Europe, c'est la semaine de la
Les pas qu'on entend sur la musique de Michel Legrand, ce sont ceux de Cléo qui a descendu les escaliers de l'immeuble où elle était allée voir une voyante, on va vite dire pourquoi, et qui, après s'être regardée dans un miroir, le premier du film qui en comptera beaucoup des miroirs, Cléo donc sort dans la rue de Rivoli, on a entendu l'ambiance de la rue et elle marche parmi des étals de marchands filmés de loin en plan séquence. C'est le chapitre 1 de Cléo de 5 à 7, un film tourné en juin-juillet 1961 est sorti il y a 60 ans et quelques, le 11 avril 1962. Bernard Bastide, vous avez très bien connu Agnès Varda, vous avez été son assistant de 1993 à 1999, vous l'avez rencontré sur le tournage, je crois, de Santoine Illouat en 1985, et vous lui avez consacré de nombreux travaux, dont, en ce qui nous concerne aujourd'hui, une thèse sur Cléo de 5 à 7, sa genèse et sa réception, et puis le livret pédagogique publié quand le film a été inscrit au programme du baccalauréat, ce qui avait réjoui Agnès Varda. C'était en 2019, peu avant sa disparition à 90 ans. Il faudrait peut-être commencer, Bernard Bastide, par rappeler qui est Agnès Varda quand elle se lance dans Cléo de 5 à 7. Ce n'est évidemment pas encore l'icône qu'elle est devenue aujourd'hui.
C'est vrai, donc Agnès Varda a commencé en fait comme photographe du TNP de Jean Villard. Elle a accompagné donc au Festival d'Avignon dès les premières années du festival. Et ensuite, comme elle le dit elle-même, elle a eu envie de mettre des mots sur ses images. Elle a commencé à réfléchir et elle a storyboardé et tourné très vite donc son premier long métrage, La Pointe courte, qui inaugure véritablement les méthodes de la nouvelle vague, c'est-à-dire une autoproduction.
1954,
oui. Une autoproduction tournée en décor naturel avec beaucoup de non-professionnels. À part Sylvia Montfort, c'était que des débutants ou des non-professionnels. Voilà. Mais ce film-là est vraiment tourné trop en marge du système, donc n'aura pas de distribution commerciale, ne sortira qu'en non commercial. Et donc les copains d'Agnès, que sont René et Marker, vont lui conseiller de faire un peu allégeance au système en tournant des films de commande. Donc elle va faire deux films, Du côté de la côte et Aux saisons au château, où elle fait preuve effectivement d'une certaine technique de répondre à la commande, à la demande, et ça va être un peu son passeport d'entrée dans la nouvelle vague. Et elle entre de plein pied dans la nouvelle vague avec Cléo de 5 à 7, mais un peu en décalé par rapport à ses confrères, alors que c'est elle qui était véritablement l'hirondelle qui avait annoncé la nouvelle vague dès 54.
Oui, décalé, Brigitte Rollet, on vous avait reçu dans Plan Large, c'était fin 2018 pour parler d'Agnès Varda et en particulier de ses documentaires. Mmh. Vous avez notamment publié Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, et puis un article dans le livre collectif Agnès Varda, le cinéma et au-delà, sur la question du regard, on y reviendra tout à l'heure, des rapports entre les théories féministes et son cinéma. En 1962, effectivement, quand sort le film, on n'appelle pas encore Agnès Varda la mère, voilà, la grand-mère de la nouvelle vague, comme on l'appellera à la fin de sa vie. Elle y occupe une place tout à fait à part, même si elle a été l'hirondelle que décrit Bernard Bastide, et pas seulement parce que elle est la seule femme parmi tous ces hommes.
Mm. Il y a aussi le fait, alors le coup de la mère, je l'ai retrouvé dans un courrier de Truffaut en 61 où il parle de la mère Varda dans une lettre. Mmh. Donc en fait, alors que au niveau générationnel, ils ont à peu près le même âge, mais je pense que c'est en effet la seule dans cette bande. Et ce qui la distingue, outre le fait que c'est une femme, c'est aussi le fait qu'elle n'est pas du tout cinéphile et que ses références sont autres. Et en fait, ça va expliquer un certain nombre de choix qu'elle fait qui sont, pour elle, plus proches de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire la peinture et sa pratique, qui est la photographie. Donc elle n'est pas, je dirais presque, encombrée par toutes ces références. Parce qu'il me semble que trop de d'érudition sur un sujet peut être un petit peu paralysant quand on crée, et elle n'a pas du tout ça, c'est-à-dire que on cite souvent René lui disant tiens ça me rappelle La Terre tremble, et elle dit je ne sais pas de quoi tu parles, enfin s'il se tutoyait je ne sais pas. C'est aux innocents les mains pleines, elle arrive, elle a ce regard et cette fraîcheur et cette virginité aussi dans le regard qui fait que elle fait autre chose. Et puis, il y a aussi, je pense, le fait que l'esprit de corps qui me semble être assez prégnant dans l'équipe des cahiers, elle n'en fait pas partie. Elle n'écrit pas sur le cinéma non plus. Donc, c'est très, très différent.
Outre la peinture, il y a la poésie qui est très présente chez elle. Même à 90 ans, elle récitait des poèmes comme ça. Ça me touchait beaucoup parce qu'elle avait gardé vraiment cette mémoire très vive. Et le théâtre, hein, les textes de théâtre. Voilà, elle avait assisté à toutes les répétitions des représentations du TNP, du Festival d'Avignon. Donc elle demandait à Villard de faire une représentation pour elle, pour la photographe. Donc elle avait mémorisé beaucoup de textes de théâtre aussi. Mais j'ai retrouvé par ailleurs une lettre, effectivement, où Truffaut lui propose d'écrire pour les cahiers du cinéma. Curieusement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et elle botte en touche en disant « Mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, vous croyez que j'ai le temps d'écrire ?» En fait, elle était toujours tournée vers le projet d'après, quoi. Mmh. Et donc, l'idée d'écrire dans les cahiers, ça lui faisait ni chaud ni froid, quoi. C'était pas du tout son truc.
Même si La Pointe Courte sort la même année que le texte de Truffaut contre le cinéma de tradition, une certaine tendance du cinéma français, elle n'est pas du tout dans ces querelles de chapelle. On sent qu'elle est vraiment... il me semble que l'émission à laquelle j'avais participé s'appelait les francs-tireurs ou les franches-tireuses. Je ne sais pas si on peut féminiser la chose. Mais c'est quelqu'un qu'on sent très détaché de ça et qui fait son chemin à elle. Ouais. Avec, on en reparlera, de ce petit film muet où elle fait jouer ses amis. Mais justement, on peut avoir un regard tout à fait autre sur ce petit film.
Ça, on en parlera tout à l'heure, effectivement, parce qu'il arrive plus tard dans le film. Mais en tout cas, le Cléo de 5 à 7 n'est pas le projet que compte faire Agnès Varda au départ. Elle va voir Georges de Beauregard, qui est donc grand producteur de la nouvelle vague, avec un projet très cher. Enfin, trop cher en tout cas. Pour qui Agnès Varda? C'est quoi ce projet, Bernard?
Ça s'appelle La Mélangite, en fait. Agnès avait été bercée par les images de Sète, hein, qu'elle avait connues très jeune pendant la guerre. Et elle avait découvert Venise, aussi avec son amie Valentine Schlegel. Elles avaient fait plusieurs voyages là-bas. Et très vite, Agnès a voulu imaginer une histoire qui se passerait dans les deux villes. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui est atteint de mélangite, c'est-à-dire qui mélange les canaux de Sète et les canaux de Venise. Et le film était très audacieux parce que il aurait été interprété par 5 comédiens différents pour le rôle principal. En fonction de l'état d'humeur du personnage, le comédien aurait été différent, suivant qu'il était de bonne humeur, de mauvaise humeur, amoureux ou pas amoureux. C'était un comédien, donc il y avait toute une pléiade de comédiens. Il y avait Bourseiller, Brialy, etc. Et c'était un film très cher parce que décor naturel, le tournage en Italie, en couleur. Et donc, elle a tourné un petit peu sur la place de Paris. Truffaut était un des coproducteurs à un moment donné. mais à Georges de Varda de trouver un coproducteur italien qu'elle n'a jamais trouvé, et donc elle a dû passer à autre chose, renoncer à la mélangite.
Et donc Georges de Beauregard lui donne une enveloppe d'un tout petit budget en lui disant bah voilà, débrouillez-vous avec ça. Comment naît Cléo de 5 à 7 à partir de là? Il y a beaucoup d'influence.
Elle prend le contre-pied en fait de ce qu'elle voulait faire pour la mélangiste, c'est-à-dire elle fait un film qui va se passer uniquement à Paris, de 5h à 6h30, donc très peu de décors, pas de déplacement, pas de défraiement, etc. Donc elle prend l'exact contrepoint en noir et blanc, et donc elle imagine cette histoire de cette chanteuse de petit non, qui d'un coup est frappée par le doute, hein, parce qu'elle craint d'avoir un cancer, et donc elle est dans l'attente des résultats de l'analyse médicale qui va un peu décider de son sort, de son avenir, de son destin. Et donc c'est de 5h à 6h30, hein, ce temps comme ça de latence, de suspension un peu, que Varda a décrit dans son film.
Mais en même temps... Pour moi, ce film et Georges de Beauregard, parce que on oublie quand même de dire qu'il y a des producteurs qui ont bien profité de la nouvelle vague et des premiers succès. Et là, en fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils veulent un film qui ait du succès, mais qui coûte pas trop cher. Et en fait, Cléo, c'est vraiment, moi, j'ai envie de le voir plutôt parce que j'ai un esprit comme ça, mais comme une sorte de pied de nez qui est OK, vous voulez un truc, fauché, entre guillemets, ben, on va faire avec le minimum. C'est-à-dire, on reste à Paris, c'est pratiquement en temps réel et on est avec un décor qui est naturel entre guillemets puisque ce sont les rues de Paris, il y a très très peu de scènes en intérieur et les scènes en intérieur sont dans des lieux existants. Quand on voit les courriers de Georges de Beauregard, on sent quand même bon qu'il veut que ça rapporte cette... Et en effet, les producteurs ne sont pas des philanthropes, ils sont là quand même aussi pour remplir leur caisse, mais je trouve cette quand on voit le budget justement, enfin le budget, l'estimation du budget, mais peut-être vous pourrez confirmer, il y a moins de 800 000 francs,
oui,
enfin nouveaux francs,
oui.
C'est très très peu cher. La Pointe Courte, elle l'a fait avec 3 francs 6 sous, donc et à l'époque elle n'avait pas Georges de Beauregard, mais on sent quand même un peu les requins qui ont bien compris que ces jeunes gens là, de toute façon, ils veulent tellement faire du cinéma qu'on leur donne 3 sucettes et ils sont contents.
Oui, d'ailleurs ça sera une toute petite fenêtre durant laquelle Varda va travailler pour des producteurs, hein, ensuite Mac Baudard, et puis après elle reviendra effectivement à Cinétamaris, sa structure de production, où là, elle peut bénéficier d'une plus grande liberté de mouvement. Elle peut tourner des images, revenir les monter, réfléchir à ces images et repartir en tournage. Voilà, après, elle va, grâce à sa structure, s'offrir une méthode de travail qui la franchit de tous ces producteurs, effectivement... soucieux de gagner vite de l'argent.
Ce qui n'est pas le cas de Mac Baudard, qui, elle, prend des risques. Elle c'est quand même la première à financer Bresson en demi, personne n'y croit. Donc, moi, je fais bien la distinction entre Mac Baudard et Georges de Beauregard.
On refera un débat un jour sur les grands producteurs de l'époque, parce que c'est un sujet passionnant. En tout cas, le décor est planté, et puisqu'on parle de décor, mais on voit aussi un qui compte beaucoup dans ce film, c'est le chapitre 2, et ça vient juste après l'extrait qui a inauguré cette émission.
J'étais juste descendu une minute. Alors, Madame Irma vous a quitté la peur? Justement, non, c'est pire qu'avant. Les cartes le disent, je suis malade.
C'est pas possible.
Elle l'a vu dans le jeu? Mais est-ce que ça peut se voir sur ma figure?
Mais non. Vous vous faites des idées.
Si c'est ça, je me tuerai. Autant dire que je suis morte déjà.
Avec elle, c'est toujours drame et compagnie. Elle a pourtant ce qu'il faut pour être heureuse. Mais elle a besoin qu'on la protège. C'est une enfant.
Allons, madame. Cléo, ma petite fille. Calmez-vous, voyons. Allons. Là.
Alors, ça ne va pas, la petite dame?
Elle se tracasse. Elle s'est fait une montagne pour un examen médical.
Vous savez, les docteurs, ça voit le mal partout. Ils ordonnent des examens comme autrefois des potions, c'est la mode.
Vous l'avez dit, c'est la mode.
Oui, oui.
Elle se trouve mal. Vous vous sentez mal?
Oui, un café. Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. Pas de café.
Bon, et bien un café.
D'accord.
Celle qui la chaperonne avec affection et autorité, mais qui n'en pense pas moins dans sa voix intérieure, c'est sa gouvernante Angèle, jouée par Dominique Davray. Et Cléo, c'est Corinne Marchand, que le film rend célèbre dans le monde entier, du jour au lendemain, à la présentation du film à Cannes. C'est sur le tournage de Lola, le film de Jacques Demy, le compagnon d'Agnès Varda, que la cinéaste l'a repéré. Qu'est-ce qui l'intéresse tout de suite chez elle, Brigitte Rollet?
Alors, je sais pas ce qui l'intéresse, mais il y a une chose que je voudrais rajouter, qu'on dit toujours Corinne Marchand découverte dans Lola, mais on oublie qu'elle jouait avant dans Pacifico, qui était une opérette où elle était partenaire de Bourville et de Georges Guettari. Et en fait, c'est comme Dominique Davray, elle fait quand même un choix de comédiennes qui sont pas associées au cinéma d'auteur, ce qu'on appelle pas encore le cinéma d'auteur. Donc, elle choisit quand même des comédiennes ou des actrices qui viennent du cinéma populaire. Et j'insiste là-dessus parce que ça me semble très très important, ce que ne font pas les autres. Elle n'a pas non plus ces espèces d'ornières qui font que il y a les bonnes, avec des gros guillemets, comédiennes qui sont tout de suite assimilées comme Moreau au cinéma d'auteur. Donc en fait, je pense qu'elle voit, je sais pas si elle voit la blonde Hitchcockienne, je sais pas si elle voit je sais pas exactement.
C'est un mélange de vue d'aujourd'hui, en tout cas, c'est un mélange de blonde hollywoodienne et bergmanienne, notamment à cause de ses nombreux regards caméra dans le film, et c'est presque un modèle bressonien aussi pour Agnès Varda.
Je pense qu'il faut rendre hommage quand même à Bernard Toublan-Michel, hein, qui est son découvreur. C'est lui qui l'a découverte donc dans un cabaret qui s'appelle La Nouvelle Ève, et il a été tout de suite émerveillé par cette jeune femme. Et c'est lui qui va la proposer à Demy pour Lola. Il lui dit, tu prends un costume, un chapeau claque, et tu prends un train pour Nantes, et elle sera effectivement dans une seule scène de cabaret. Et c'est en projetant les rushs de Lola que Varda va véritablement, avec Carlo Ponti, le coproducteur italien, découvrir Corinne Marchand. Je pense que c'est l'idée d'une beauté comme ça inaltérable. Il y a l'idée d'une beauté classique, d'une beauté éternelle. L'idée que quelqu'un d'aussi beau ne peut pas être malade. Quoi. Il y a l'idée de quelqu'un de très sain, de porteur de valeurs tellement saines que elle ne peut pas être touchée par le mal. Elle est quelque part inaltérable.
Et en même temps, c'est quelqu'un. Qui est un peu comme les comédiennes que Jacqueline Audry a découvertes, ou à qui elle a donné sa chance à part Daniel
autre,
Delorme.
Autre cinéaste féminine rare de l'époque.
Oui, en tout cas, un peu comme ces héroïnes-là, comédiennes-là, elle n'a pas fait énormément carrière par la suite. Et j'ai trouvé dans les archives de Georges Kovac un reportage dans je ne sais plus quel magazine en images, où on voit où elle est. Il y a un côté très caméléon. On la met en Elizabeth Taylor. Il y a un coiffeur qui est là pour lui donner l'air de ressembler à toutes ces stars hollywoodiennes qu'elle n'est pas. Ouais. Et c'est vraiment très intéressant.
J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 3 ans, de l'interviewer, de la filmer. Et c'est vrai qu'elle... C'est compliqué son rapport à Cléo, parce que c'est le film effectivement qui l'a complètement fait découvrir dans le monde entier. Et en même temps, elle a souffert effectivement de ce rôle-là, parce que elle n'a pas réussi à passer à autre chose véritablement, à trouver d'autres rôles aussi forts par la suite. Elle a été cataloguée un peu dans ce genre de personnage. Et après, elle a fait du mou dans la gâchette, enfin des trucs vraiment de la série B, quoi. Hein,
Il y a des personnages qui vous hantent à vie. Alors, autre aspect très intéressant de l'extrait qu'on a entendu, c'est qu'il se passe dans un café qui s'appelle le Sava Savien. On est toujours dans le coin de la rue de Rivoli, en face de la Samaritaine. Et puis, c'est une scène qui résonne avec une autre scène qu'il y aura plus tard, celle qui est tournée au Dôme. Là, on est plus dans le quartier d'Agnès Varda, à Montparnasse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces scènes de café, Bernard Bastine?
Alors, ces scènes de café sont marquées beaucoup par le rapport que Cléo entretient avec son image, avec les miroirs. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée d'une représentation. Alors, dans le premier café, elle va se regarder dans un miroir. Il y a une espèce de vertige, parce qu'on ne sait plus... On voit à la fois le public du café, et la particularité de ce miroir, c'est qu'il est partagé, il est coupé en deux. Donc on va avoir une interrogation effectivement sur sa personnalité à ce moment-là, sur cette cassure effectivement qui s'opère en elle, puisque son image ne correspond plus à ce qu'elle a envie de renvoyer. Donc c'est très important à ce moment-là. Et ensuite, donc quand elle arrive au dôme, là c'est une situation différente, c'est-à-dire que là elle n'est plus en situation de se mirer, de s'admirer, mais au contraire elle se retire du monde derrière ses lunettes noires et elle essaie de tester un petit peu sa popularité auprès du public, effectivement, du café. Et elle met une chanson sur le jukebox, elle s'aperçoit qu'absolument personne n'écoute sa chanson. Et Varda a su magnifiquement capter les micro-discussions, échanges, murmures, paroles susurrées comme ça dans le café. Et il y a une espèce de bruissement comme ça incroyable. Et Corinne Marchand est comme une tête comme ça, chercheuse, enregistreuse dans ce café, et c'est absolument magnifique comme scène.
Ce motif du miroir est passionnant parce qu'il intervient tout au long du film, on pourrait même dire tout au long de la filmographie d'Agnès Varda. Comment est-ce que vous le voyez, vous, ce miroir, Brigitte Royer?
C'est quand même l'objet cinématographique par excellence, le miroir, parce qu'en plus le miroir cadre. Ce qui est déjà cadré par ailleurs. Moi, dans le parallèle de ces deux scènes, c'est vrai qu'il y a le fait qu'on la voit aussi au dôme. Il y a un poteau qui la sépare ou un pilier qui la sépare des autres personnages. Donc, il y a vraiment un travail sur le cadrage qui est très fort. Et si mes souvenirs sont bons, ce poteau est fait de petits miroirs qui sont là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la scène de chanson où elle quitte les autres, où elle devient une piétonne totalement différente de ce qu'on a vu dans la première partie du film. Elle sort, moi ça me marque toujours, elle sort, elle enlève sa perruque, elle sort et c'est la première fois du film où elle ne se regarde pas dans la glace. Et donc il y a vraiment un moment de rupture qui est, elle n'est plus obsédée par son apparence. Donc c'est le miroir, je pense qu'on en trouverait dans tous les films. Après il y a l'usage qui en est fait. Et c'est vrai que je reviens à Jacqueline Audry qui, elle, a vraiment toujours une scène au miroir de ses personnages féminins. C'est un peu différent dans Cléo, puisque c'est elle qui veut avoir l'assurance de sa beauté. Et d'ailleurs, quand elle va dans la rue dans cette scène, après qu'elle quitte sa maison, elle est dans la rue et elle dit « tant que je suis belle, c'est ça qui compte ». Donc, il faut qu'elle... une espèce de réassurance que...
Mais ça va évoluer, parce que quand elle se voit dans le miroir japonais du restaurant, là, elle regrette justement que sa maladie ne se voit pas. C'est-à-dire qu'elle garde toujours ce visage d'une beauté vraiment inchangée, et elle trouve que son image n'est plus en adéquation avec son intériorité, et c'est ça qui lui pose problème. Donc il y a une évolution, elle n'est plus à chercher à ce moment-là ce réconfort auprès de son image, elle est à douter effectivement du fait que son image ne reflète plus ce qu'elle est vraiment, quoi.
Et de manière très frappante, le dernier miroir du film sera un miroir brisé, dans lequel on ne voit plus que le reflet de son œil. Voilà. C'est évidemment l'histoire d'un regard, une histoire du regard, ce film.
Oui, tout à fait. En effet, Varda travaille beaucoup sur le choix de l'accès à une certaine subjectivité du personnage qu'elle traduit dans ses images. Elle dit, dans toutes les versions du scénario, elle dit le passage de la coquetterie à l'angoisse. Et en fait, c'est bizarrement, cette introspection permet à Cléo de regarder l'extérieur, ce qu'elle ne faisait pas. Et on voit vraiment, à partir de ce moment-là, s'imposer un regard sur les autres. C'est-à-dire qu'elle est, pour la première fois, et on voit la scène quand elle quitte le café. Moi, c'est une scène que je fais beaucoup avec mes étudiants et étudiantes, parce que c'est vraiment une scène... pour la première fois, on a l'impression qu'elle voit le monde autour d'elle, même si elle est vue également. Et ça, cette construction comme ça, alternée entre son regard à elle et cette prise de conscience. Donc ce regard intérieur lui permet enfin de regarder à l'extérieur.
Alors Cléo Victoire, puisque c'est son nom, on ne sait pas si c'est son nom de scène, en tout cas c'est un beau nom, Cléo Victoire, elle est, on l'a dit, elle est chanteuse, elle n'est pas autrice, elle n'est pas compositrice, ceux qui s'en chargent, ce sont deux joyeux drilles.
France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté et ton compte en banque ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais, moi perfidement je t'ai menti.
Oui, non, elle n'est pas là. Rappelez demain.
C'est trop difficile à chanter, ça, j'y arriverai jamais.
Bon, alors... Je t'ai menti, je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté, et ton compte en banque ma volupté. Tu croyais séduire, tu m'achetais. Moi perfidement, je t'ai menti, je t'ai menti.
Non, c'est pas moderne ça, l'air d'avant il est mieux, il est plus...
Typique.
C'est ça. Bon, ben, je vais l'apprendre. Quoi d'autre?
Moi je joue.
À quoi?
Moi je joue, c'est une chanson, tout à fait pour vous. C'est facile comme tout.
Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit, et moi... Je joue de la prunelle, j'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, des noires et des blanches, et moi, je joue des hanches, j'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cornet, toi tu joues du banjo, et moi, moi je joue contre toi. C'est fou. Et moi, je m'en fous, je triche, m'en fiche, c'est fou.
C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson-là. Les paroles sont très jolies.
Et la musique, non?
Mais si, la musique aussi.
Mais oui, elle est très jolie, cette musique, d'autant qu'elle est signée évidemment Michel Legrand, qui joue son propre rôle, ou presque, puisque dans le film, il s'appelle Bob. Quant au parolier, Maurice dit plumitif, c'est Serge Corbert, qui n'est pas encore réalisateur à l'époque. C'est une séquence, Bernard Bastide, c'est le chapitre 6, qui en dit beaucoup, évidemment, du travail d'Agnès Varda, qui est la vraie autrice des paroles de ces chansons, du travail d'Agnès Varda et de Michel Legrand sur la musique de Cléo de 5 à 7. C'est presque une méta-séquence où on rentre dans la cuisine.
Oui, c'est vrai. En fait, Varda rencontre Legrand par le biais de Demi, hein, puisque Legrand vient de composer la musique de Lola, un peu au pied levé d'ailleurs, pour remplacer un compositeur américain qui avait fait défaut au dernier moment. Et dans un premier temps, Varda confie à Legrand la musique du film. Et donc, comme c'est la tradition, on enregistre les chansons en studio avant le tournage, pour pouvoir les diffuser en playback sur le tournage. Et à ce moment-là, Varda n'a pas son comédien, son interprète du personnage du compositeur, et va proposer le rôle à Michel Legrand, qui fera merveille, effectivement, dans la scène. Il y a des choses assez amusantes. Elle avait convoqué Legrand, elle lui avait dit « Tu m'apportes une pile de chemises et on choisira laquelle tu auras. » Et Legrand disait vraiment « C'était un tournage fauché, même pas m'offrir une chemise pour le tournage. » Donc voilà, c'était assez bon enfant. Et par contre, dans la scène, oui, il y a beaucoup de choses qu'on perçoit de façon sous-jacente. Il y a quand même, on sent un passif entre Bob et Cléo, hein. On devine plus ou moins qu'ils ont une histoire, et puis lui a tendance toujours un peu à la rabaisser, à dire qu'elle est pas capable, que c'est une chanteuse, mais de variété, quoi, pour chanter des petites choses légères, des divertissements, mais qu'elle n'a pas le niveau pour ses textes et tout ça. Donc, voilà, il y a une façon assez méprisante de la juger. Puis c'est vrai que il y a un côté un peu démo, effectivement, de tous les styles de chansons, presque un stand, effectivement, publicitaire pour le compositeur Michel Legrand, quoi.
Et puis juste après cette scène, il y en a une qui est une des plus belles scènes de toute l'histoire du cinéma français, je crois, où on va lui donner une nouvelle chanson à chanter à cette Cléo. La chanson s'appelle « Sans toi ». On l'entendra tout à l'heure en fin d'émission, mais c'est le moment de bascule du film, ouais. Brigitte Rollet.
Oui, déjà parce que la façon dont elle est filmée, la façon dont Ce piano devient subitement entouré d'un orchestre.
Et on moi, passe du diégétique au non-diégétique.
Ah oui, ouais, exactement. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, moi je vois dans cette scène avec le plumitif et le compositeur, une espèce de mise en abîme de la position de Varda par rapport au cinéma, c'est-à-dire que Cléo n'est qu'une interprète, donc elle est un petit peu vue de façon très paternaliste par les deux autres, elle n'est là que comme instrument de leur art, donc il y a une espèce de répartition entre l'interprète et le créateur, on considère qu'elle n'est pas créatrice, et en même temps c'est Varda qui a écrit les textes, donc elle est quand même là, et je trouve que ça dit bien de cette espèce de position qui n'est pas encore bien définie. Alors c'est peut-être une lecture tout à fait discutable, mais ça me semble intéressant de déjà pour un peu revaloriser Cléo qui au début en effet est là comme la simplement l'instrument, la voix par laquelle les textes de ces messieurs et leur musique vont prendre vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Bernard Bastide, c'est ce moment de bascule tout de même.
Oui, c'est le climax du film. Hein, c'est un moment de tension terrible, formidable. Et c'est le moment important parce que Cléo prend conscience, effectivement, par les thèmes de la chanson, la solitude, le vieillissement, la décrépitude, la mort, prend conscience véritablement de son mal et arrive à mettre des mots, M-O-T-S, sur ces mots, M-A-U-X, quoi. Hein. C'est-à-dire que cette chanson-là arrive en parfait synchronisme, elle lui permet d'accoucher effectivement de cette douleur qui jusque-là était indicible pour elle, hein, qu'elle n'arrivait même pas à cautionner, qu'elle n'arrivait pas à accepter. Et c'est ce qui fait la force, effectivement, de cette séquence. Et ce moment de bascule est très beau parce qu'on voit un projecteur qui s'allume sur le côté gauche de son visage et on passe de la musique du piano à une musique symphonique. Donc, on se retrouve tout d'un coup avec Cléo sur une scène de théâtre ou dans un studio d'enregistrement ou sur un plateau télé. Donc, où ça bascule effectivement vers un univers de représentation. Et d'ailleurs, elle est cadrée vraiment comme vue par le spectateur du premier rang de l'orchestre. Comme ça, le cadre ne se fige pas. Elle est complètement prisonnière de ce cadre-là. Et à la fin, effectivement, Varda dézoome subitement et à ce moment-là, Cléo se retrouve plongée à nouveau dans le réel et s'effondre littéralement parce que la douleur est trop violente. Le surgissement de la douleur est absolument insupportable pour elle.
Mais au-delà même de la musique de Michel Legrand, il faudrait presque faire une étude au métronome de ce film parce qu'il a des tempi différents. Il y a une conception toujours très musical chez Agnès Varda, ça on le verra dans toute sa carrière, et le film est comme ça, à des rythmes qui progressent en permanence. Par exemple, le montage de la première partie est très différent du montage de la seconde, Brigitte Rollet.
Oui, c'est pour filer la métaphore musicale, c'est la petite musique de Varda, cette façon d'organiser les choses, les plans, les événements, les moments. Enfin, moi, j'aime quand elle descend après cette scène justement de bascule et qu'il y a le petit garçon qui a sa boîte à musique et qui joue un thème. Enfin, on nous fait croire que le thème qui est sur la boîte à musique ressemble. Ça montre bien justement ce mélange. Enfin, pour moi, la distinction réelle et fiction chez Varda, elle est tout à fait, elle est peu opérante. Et là, avec ce petit garçon, on voit justement le fait qu'on passe du diégétique à l'extra-diégétique et à la limite, c'est cette espèce de fluidité comme ça entre des univers que le cadrage et que le montage accompagnent. Tout à fait. Il y a une attention à la forme. Je pense qu'elle est la seule à avoir. Je parle pour les réalisatrices, mais on pourrait étendre ça aussi au réalisateur.
Bernard Bastide, le rythme de ce film.
Oui, il faut savoir que Varda fait partie de ces cinéastes qui ont une demande très précise pour les musiciens qu'elles font travailler. Et en l'occurrence, Varda avait rédigé un cahier de musique, un petit cahier d'écolier, où elle avait pour chaque séquence détaillé très précisément combien elle voulait de musique en durée, quelle était l'intention que la musique devait apporter, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail de vraiment au millimètre, hein, de commande d'une partition à un compositeur, et c'est très rare d'avoir cette telle précision, quoi, hein. sur la séquence où elle descend les escaliers, donc après la visite chez Madame Irma, on a cette espèce de bug comme ça de son cerveau, et c'est traduit dans la musique effectivement par une boucle comme ça qui se répète, le plan se répète 3 fois je crois, et la musique aussi tourne en rond comme ça. C'est très rare d'avoir cette finesse dans l'adéquation entre l'image et la partition musicale, et ça c'est dû à la demande très précise de Varda.
Et puis, on l'a un peu annoncé tout à l'heure, il y a ce moment un peu étrange dans le film qui ouvre comme une parenthèse.
Raoul ! Il n'entend rien là-dedans. Raoul ! Raoul !
Oh ! Hé, attention au film. Voilà ma poupée.
D'amour ?
Il y a longtemps, Cléo. Comment ça va ? Vous arrivez bien toutes les deux, c'est le petit film. Tu sais, je t'en ai parlé. Je vous installe, c'est la fin.
Ne vous dérangez pas, Raoul, je ne fais que passer.
Mets-toi là.
Cléo, elle est malade.
C'est pas grave au moins. Mettez-vous là toutes les deux, il n'y a pas de maladie qui tienne quand on peut rire un moment.
Rien qu'un moment alors, parce que je dois encore aller chez Cafinos. Et Cléo, elle n'est pas bien.
Mais si, ça va très bien.
Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le cinéma. 4e épisode, Cléo de 5 à 7 avec Bernard Bastine et Brigitte Rollet. Ce film muet dont on entend la musique, il s'appelle Les fiancés du pont McDonald's. Il connaîtra une existence parallèle à Cléo de 5 à 7 dans une version plus longue, on le verra en festival, et plus tard en DVD, on le retrouve dans Varda tout court. Agnès Varda le citera aussi dans son avant-dernier film, Visage Village en 2017, quand elle tentera d'aller voir Jean-Luc Godard a rôle, ben oui, parce que les fiancés du film, ce sont des mariés à la ville, Jean-Luc Godard et Anna Karina, plus une foultitude de caméos au visage très connu, à l'époque comme maintenant, dédié Constantine en arroseur à Jean-Claude Brialy en infirmier, en passant par Daniel Delorme, Alan Scott, Yves Robert et Sammy Frey, et puis aussi le producteur de Cléo, qui n'apparaît que dans la version complète, en conducteur de corbillard voilà. Et d'ambulance, on dit beaucoup, sans doute, de ce qu'Agnès Varda pense. C'est les producteurs. Quelle est, Brigitte Rollet, la fonction pour vous de ce chapitre 10, une séquence burlesque assez hétérogène dans un film au ton aussi dramatique?
Je dirais que la première lecture, ce serait un moment de respiration dans le film. On est dans un temps, justement, qui est très très minuté par le chapitrage, et là subitement on échappe au temps avec cette idée d'escapisme un peu d'échappatoire que donne le cinéma. Mais en même temps, quand vous avez cité les noms, j'y vois encore, parce que ça fait partie de mes petites marottes, un mélange tout à fait intéressant d'acteurs typés Nouvelle Vague et d'acteurs typés cinéma de tradition type Daniel Delorme et Yves Robert. Et si on regarde la chronologie un petit peu, assez intéressant. En 61 était sorti le film de Jacqueline Audry, son seul film un peu nouvelle vague, qui s'appelait Les Petits Matins, où elle fait aussi un mélange d'acteurs de la nouvelle vague et du cinéma de tradition. Donc en fait, il y a plusieurs lectures possibles. C'est un clin d'œil aussi au cinéma muet et à ses débuts, c'est-à-dire un cinéma qui n'est pas encore un art, qui est perçu comme un divertissement plus qu'autre chose. Donc il y a plusieurs pistes, mais qui vont toujours dans une espèce de désacralisation aussi du cinéma par rapport à ce que pouvaient en penser d'autres de ses petits camarades à la même époque aussi.
Oui, c'est assez paradoxal de voir Agnès Varda citer effectivement ce cinéma muet, ce cinéma burlesque qu'elle connaissait très peu, très mal. Mais en même temps, il y a le film tient un rôle effectivement un peu dramaturgique. Varda l'expliquait au niveau narratif. Elle disait, elle avait peur qu'il y ait une espèce de coup de mou comme ça chez le spectateur. Et donc là, elle donne une petite piqûre de rappel pour susciter un peu la curiosité de ses spectateurs. Et je pense qu'en même temps, le film peut être lu comme une lecture en creux effectivement du sujet de Cléo. C'est-à-dire que c'est une histoire effectivement documents de couple, donc avec des lunettes noires ou sans lunettes noires. Donc on voit le monde différemment, suivant qu'on est positif ou négatif, on voit la vie différemment. Donc ça éclaire aussi quelque part le personnage de Cléo. Et puis c'est une façon effectivement pour Varda de rendre hommage, de faire un clin d'œil un peu à ses copains. Alors oui, le couple Robert Delorme, ça peut paraître curieux, mais en même temps, c'était deux réalisateurs producteurs.
Donc, ah mais bien sûr.
Voilà, donc il y a une proximité aussi avec avec Varda. De voisinage aussi, voilà, c'est des gens qu'elle a rencontrés, qu'elle a connus par d'autres biais effectivement, et tous ces gens-là se retrouvent effectivement embrigadés dans ce projet, c'est assez amusant. Ouais.
Mais ça montre aussi, pardon, qu'elle ne s'interdit rien, non. Y compris de mélanger des personnes. On voit bien aujourd'hui quand certains comédiens, comédiennes qui vont dire j'aurais aimé tourner avec la Nouvelle Vague, mais je les intéressais pas. Parce qu'ils étaient trop associés au cinéma de tradition qualité des années précédentes. Et donc là, je trouve ça culotté, je trouve ça très sympathique qu'elle mélange comme ça un peu tout le monde.
Et puis c'est une séquence qui est tournée du côté de la Villette, qui montre un Paris très graphique. Ouais. Elle a une utilisation des lignes transversales, ouais. Notamment avec ces escaliers qui descendent sur le canal. Cléo de 5 à 7, c'est aussi un grand film sur Paris, mais un Paris qui n'est pas exactement le même Paris que celui que filment ses collègues de la Nouvelle Vague à l'époque. C'est un Paris presque surréaliste, qui est rempli de signes qu'il faudra décrypter, où on fait des rencontres objective. Je ne sais plus qui disait que le film devait beaucoup plus au surréalisme qu'à la tradition, voilà, qui donnera la Nouvelle Vague. Bernard Massine.
Alors c'est vrai que le film est...
Il doit plus à André Breton qu'à André Bazin, en tout cas.
Oui, le film est inspiré de Jacques le Fataliste, de Diderot, donc c'est des personnages qui marchent, et là, dans le film, on a des personnages qui marchent, qui prennent le bus, qui prennent le taxi, donc on a beaucoup de trajets comme ça qui balisent Paris. Mais il y a un certain nombre, effectivement, de scènes qui font très... pensez beaucoup au moment surréaliste dont Varda s'est beaucoup nourrie. Elle cite beaucoup Magritte dans son œuvre. Elle cite beaucoup.
Il y a ces masques africains, par exemple.
Voilà, les masques africains. Donc, elle passe devant le taxi de Cléo passe devant cette vitrine rue Guénégo avec tous ces masques africains. Donc, et puis ce visage effectivement de personnage africain qui se penche d'un coup à sa fenêtre et qui surgit comme ça et qui lui fait très peur. Il y a quand elle descend dans la rue, il y a cet avaleur de grenouilles quand même. Qui est très impressionnant, hein. Et c'était des vrais métiers, hein, des vraies personnes que Varda avait croisées précisément au Carrefour Vavin, hein. C'est toujours le jeu comme ça entre la fiction et la réalité. Et oui, il y a un certain nombre de rencontres comme ça très inattendues qui font basculer certaines séquences dans un univers surréaliste assez surprenant.
Et ce qui est très passionnant, Brigitte Rollet, c'est que c'est aussi la réappropriation d'une ville par une femme. Il y a une approche genrée de la ville.
Oui, c'est la flâneuse. La flâneuse, puisque les femmes, a priori, ne flânent pas. Les femmes qui marchent en ayant l'air de ne pas savoir où elles vont, elles recherchent les ennuis, entre guillemets. Donc, l'idée de la flâneuse, et la flâneuse, moi, ça me fait toujours penser à Virginia Woolf, et c'est Bory qui rapproche dans les possibles influences. Il parle de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, et où on a justement cette femme qui, bon, pour des raisons différentes, mais cette déambulation, déambuler n'est pas un verbe qui se conjugue beaucoup au féminin, parce que l'espace public est plutôt un espace masculin, et c'est vrai que là, Cléo, on le voit bien, on parlerait aujourd'hui de harcèlement de rue, mais ça peut être par le biais de regard ou par des paroles comme ça, de sollicitations non désirées, on va dire, et en effet, Cléo va par ses mouvements comme ça dans la ville apporter quelque chose qu'on ne voyait pas avant, y compris à la même époque. C'est-à-dire que Jean Seberg dans À bout de souffle, elle a un but, il y a une raison pour laquelle elle se trouve à Avenue des Champs-Élysées ou ailleurs d'ailleurs. Donc il y a toujours une finalité dans le déplacement. Et là, Cléo flâne. Et Cléo la flâneuse, c'est quand même quelque chose de tout à fait inédit à ce moment-là, au cinéma.
Mais c'est un motif de l'errance qui a presque 15 ans d'avance sur le cinéma. Hein. Des personnes qui errent dans la ville, femmes ou hommes, ça sera un des grands motifs des années 70. Là, il y a une invention d'une très très grande modernité chez Agnès Varda et Bernard Mastine.
Et pour moi, ce film-là annonce aussi Saint-Antoine Illois, c'est-à-dire que c'est la même histoire. Hein. C'est l'histoire d'une femme qui marche. Et la différence, c'est que dans Saint-Antoine Illois, on sait dès le départ, dès le premier plan, qu'elle est morte. Hein, donc, on retrouve l'héroïne morte dans un fossé. Et là, par contre, dans Cléo, la mort reste hors champ, mais elle est quand même très très probable. Et pour moi, la plus belle scène, effectivement, c'est celle de la rue de Rivoli, hein, quand Cléo sort de chez Madame Irma et qu'elle est filmée en caméra cachée depuis un balcon, dirigée à l'aide de talkie-walkie. Et là, on a effectivement les vrais commerçants hein, qui haranguent Cléo qui passe dans la rue, qui lui lance des boniments, qui la drague un petit peu, qui essaie de lui vendre un peu ce qu'ils ont, les produits à l'étalage, tout ça. Donc là il y a un moment effectivement pour moi qui est très nouvelle vague, qui est très Marker, qui est très Jolimet, quoi. Il y a vraiment l'idée d'image volée dans la rue. Pour moi, on est là de plein pied dans la nouvelle vague.
Et puis au hasard de son errance, Cléo va rencontrer plusieurs personnages, dont un dernier très important. Et le film, à ce moment-là, rencontre l'histoire avec sa grande hache.
France Culture, les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Vous attendez quelqu'un ?
Moi non, je passais.
Moi non plus.
Oh, les hommes, c'est pas pareil. Ils attendent toutes les femmes. Ils les abordent, ils leur parlent. D'habitude, je ne réponds pas, mais là, j'ai oublié. J'avais l'esprit ailleurs. Puis vous avez l'air si calme.
Je suis en permission.
Et ce costume ?
Vous voyez, je suis à moitié en uniforme, à moitié parti, quoi. C'est que je repars ce soir. Ah. Oui, ce soir, c'est fini. J'avais 3 semaines et je n'ai rien fait. C'est trop court. Ça me fait plaisir de vous parler. Vous êtes mariée ?
Non. Est-ce que j'ai l'air d'une aventurière qui cherche quelqu'un ?
Peut-être, non. Vous avez l'air d'attendre quelque chose, pas quelqu'un.
J'attends le résultat d'un examen.
Ah, vous êtes étudiante ?
Non, un examen médical, une analyse.
Et vous êtes inquiète ?
Très, oui.
De quoi avez-vous peur ?
Le cancer, je crois. Je le saurai ce soir.
Que vous dire ? Il y a une chance sur deux que ce soit autre chose.
Je n'y croyais pas, et puis une cartomancienne a vu dans mon jeu.
Vous croyez aux cartes ?
Oui, j'ai peur de tout. Des oiseaux, de l'orage, des ascenseurs, des aiguilles, puis maintenant, cette énorme peur de mourir.
Si vous étiez avec moi en Algérie, vous auriez tout le temps peur, alors.
Quelle horreur.
Moi, c'est plutôt mourir pour rien qui me désole. Donner sa vie à la guerre, c'est un peu triste. J'aurais mieux aimé la donner à une femme. Mourir d'amour.
Nous sommes dans le parc Montsouris, le père missionnaire s'appelle Antoine, beau prénom, il est joué par un vrai Antoine Bourseiller. Avant qu'on ne parle de ce personnage et de ce qu'il apporte à Cléo et au film, il y a ce mot, enfin prononcé dans le film, après un long silence de 7 secondes, j'ai chronométré, le mot « cancer ». C'est le seul moment où il est explicitement prononcé. Georges de Beauregard lui avait dit « surtout ne prononcez pas le mot « cancer » dans votre film, ça porte le malheur ». Le cancer, Brigitte Rollet, c'est en 1961 la grande peur du moment, et c'est ça qui intéresse aussi Varda.
Oui, c'est moi je fais toujours le parallèle entre le cancer et le nucléaire, parce que dans les années 60, il y a des espèces de double obsession, et il y a un lien d'ailleurs, enfin pour moi, qui est assez évident entre les deux. Mais c'est vrai que ça fait partie des ce qu'on appelait peut-être pas alors des questions de société qui commencent à agiter un certain nombre de médias. Et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'occurrences antérieures à ça, une femme qui est malade ou qui croit qu'elle l'est ou qui pourrait l'être. En tout cas, par rapport au cancer, en effet, on va voir le terme commencer à arriver comme ça aussi bien dans des fictions, mais surtout dans des médias qui vont prévenir en tout cas la population de ça.
Oui, Bernard Mastine. Il y a beaucoup de titres de presse hein, de l'époque qui commencent à parler du cancer. Et moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans le travail génétique que j'ai fait, c'est de voir comment Varda a appréhendé ce thème-là. Hein. C'est-à-dire que elle s'est fait inscrire, elle prenait rendez-vous chez des médecins à Villejuif. Et elle écoutait les femmes qui discutaient entre elles, parce que son idée, c'était l'idée de capter la peur. Hein, comment on arrivait à capter la peur? Ben, en étant effectivement cette espèce d'éponge comme ça, à l'écoute des échanges, des discussions entre femmes, pour pouvoir récupérer ce matériau et le réinjecter dans le personnage de Cléo. Ça, je trouve ça assez fascinant. Mmh. Oui.
Alors, c'est ça qui est très passionnant avec Cléo de 5 à 7, c'est qu'on peut le voir et le revoir et être toujours touché par l'immédiateté de ce qu'on voit, mais c'est aussi un film qui est historiquement daté. Mmh. Le film se passe le 21 juin 1961, on entend un bulletin d'information dans le taxi qui avait été vraiment diffusé ce jour-là. Dans ce bulletin, on parle d'émeutes dans le Constantinois, on parle d'un procès du putsch d'Alger, et il y a cette séquence donc qu'on vient d'entendre, où l'allusion à la guerre d'Algérie est très claire, puisque c'est là que le père missionnaire Antoine doit retourner le soir même. On pense aussi, 2 ans plus tard, à Jacques Demy et au parapluie de Cherbourg, sauf qu'en 1961, parler de la guerre d'Algérie, c'est pas si simple. Godard le saura avec la censure du Petit Soldat. Comment intervient cette séquence et pourquoi est-ce qu'elle veut la mettre?
Alors c'est très beau parce que cette séquence est annoncée dès le générique, puisque la cartomancienne sort le jeu et elle dit à Cléo, vous allez rencontrer un bonimenteur, un bavard, un bonimenteur, etc. Donc on a une espèce de bande-annonce qui déjà permet de comprendre qu'il va y avoir cette rencontre. Alors cette rencontre-là est très importante puisque c'est deux personnages qui ont une espèce de gémellité, c'est-à-dire que tous les deux ils sont menacés par quelque chose qui risque de les conduire vers la mort, donc la guerre d'Algérie pour Antoine le soldat et le cancer pour Cléo. Et quelque part ils vont en quelque sorte échanger leurs peurs. Donc c'est cette séquence qui est très riche parce que ils vont s'apaiser quelque part, ils vont accepter effectivement ce risque de mourir parce qu'ils vont échanger leur peur, échanger leur douleur, et donc ça va créer une espèce d'apaisement chez Cléo qui dit à la fin je n'ai plus peur, j'ai tout le temps, enfin voilà. Et il y a tout ce jeu effectivement de l'élastique aussi qu'on retrouve beaucoup dans la séquence, cette histoire de métronome et de violon. Le moment à un moment donné qui est scandé, le temps qui est scandé, qui s'égrène de manière inexorable, et par moments ce moment qui s'étire comme un élastique. Et ça, c'est assez magique dans cette séquence-là, oui.
Oui, comme tous les films en temps réel, bah, c'est comme la vie, il y a des moments pleins et des moments plus creux. Alors, ce qui est très passionnant avec les films qui sont précisément datés, historiquement datés, c'est que leur réception aussi évolue au cours du temps. Brigitte Rollet, vous avez étudié en particulier comment les théoriciennes féministes anglo-saxonnes qui ont réinventé les théories féministes, notamment sur le cinéma, mais leurs réceptions ont beaucoup varié au fil du temps sur ce film.
Oui, enfin, je ne sais pas si elles ont beaucoup varié. Déjà, il faut dire que ce sont surtout, quand on regarde un petit peu l'exégèse de l'œuvre de Varda en France, elle est très récente, alors qu'elle a commencé très tôt aux États-Unis. Et ça, j'ai fait vraiment un travail très pointu de recensement, de recension. Et en tout cas, Varda est sans doute la réalisatrice qui a donné lieu au plus grand nombre d'articles. Et la lecture qui a été faite de ses œuvres, bon, que ce soit celle de Cléo, il y a le chapitre assez magistral de Sandy Fleetman Lewis, et la lecture de l'œuvre, et c'est ce que j'avais utilisé moi pour aborder justement ce film et les autres de Varda, c'est on a l'impression, même si Varda elle-même n'en a pris conscience qu'a posteriori, que Varda, d'une certaine façon, faisait de la théorie féministe sans nécessairement le savoir ni le revendiquer à l'époque. Parce que ça, c'est important quand même à souligner. Et donc, c'est vrai qu'elle parle d'ouverture de Varda au monde, mais on va voir très tôt dans les lectures de théoriciennes féministes toutes ces théories sur ce qu'on va appeler le male gaze et ce statut un petit peu dont parle Malvey, de ce passage d'objet regardé à sujet regardant, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on retrouve en tout cas dans ce que pouvait écrire Varda à l'époque où le film sort, ou même dans son Agnès par Varda. Elle ne le dit pas. Elle n'impose pas encore cette lecture qui va venir un petit peu plus tardivement. Mais je ne sais pas si je peux vraiment parler de variation par rapport à la réception. Si variation il y a, elle est dans l'intérêt en France pour le travail de Varda. Juste pour donner un exemple, j'ai recensé je ne sais combien de centaines de thèses sur Godard. Il y en a 3 sur Varda, dont celle de Bernard Bastide. Donc il y a des choses comme ça, des indicateurs qui sont assez parlants du fait que L'effet de mode, entre guillemets, Varda, il est extrêmement tardif dans sa carrière en France. Alors qu'aux États-Unis, il commence dès le tout début.
Mais Bernard Bastide, Agnès Varda, est très consciente de l'importance de ce film, sans doute son film le plus connu en France et dans le monde, puisque dès le début des années 80, elle va, comme pour tous ses autres films, je crois, en racheter les droits et en entretenir, même pas la mémoire, l'actualité.
Oui, c'est vrai que ça va être un acte important pour elle. Je me souviens très bien avoir présenté le film à un festival et être revenu à Sint-Amaris en disant « Oh là là, la scène de la cartomancienne, tout est viré, tout est marrant. » Et Varda, tout de suite, s'est mis sur le pied de guerre avec sa directrice de production. Elle a dit « il faut restaurer le film, il faut restaurer les couleurs. » Donc, vraiment, il y avait une attention très grande à la forme et à la qualité. Mais je voulais revenir sur l'histoire des féministes. Effectivement, moi, j'ai lu aussi Claire Johnston, qui m'avait passionné, parce que elle est très accusatrice, justement, du cinéma de Varda. Elle dit que elle condamne vraiment le cinéma de Varda. Elle dit que c'est aussi sexiste, en fait, le cinéma européen que le cinéma hollywoodien. Et elle accuse Varda de rendre hommage au mythe bourgeois sur les femmes. Elle critique l'essentialisme de Varda, hein, l'association entre le féminin et le biologique. Et elle parle carrément d'une œuvre réactionnaire. Alors, elle se base beaucoup sur le bonheur quand même, hein, puisque son étude date de 76 et Cléo est très peu ou pas du tout évoquée. Et il faudra attendre effectivement Sandy Flitman Lewis au début des années 90 pour avoir un regard qui va changer. Là, elle va s'attacher à l'évolution interne de Cléo, hein, pour positiver ce côté-là. Et elle se base sur une scène effectivement où Cléo choisit un taxi et elle dit c'est une déesse, et la chauffeur de taxi lui dit non, c'est une idée. Donc le chapitre s'appelle From Déesse to Idea. Donc c'est comment effectivement une femme qui est une déesse, qui est une beauté comme ça que l'on contemple, accède effectivement au savoir, à l'intelligence et donc à l'idée. Donc en jouant sur ces termes de marque déesse et idée, voilà, de marque de voiture Citroën, je crois. Donc il y avait ce passage effectivement à la conscience intellectuelle chez la femme.
Et puis on le sait, Madonna aurait voulu faire un remake de ce film. Ça n'a jamais abouti. On aurait aimé que Madonna reprenne la grande chanson du film Sans toi. Peut-être que ça arrivera un jour. En attendant, la voici. On en a parlé tout à l'heure. C'est évidemment un des plus beaux moments du film.
Cléopâtre, je vous idolâtre.
Toutes portes ouvertes, en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi. Comme une île déserte que recouvre la mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi.
Merci Bernard Bastide et Brigitte Rollet. Cléo de 5 à 7 en version restaurée et coéditée en DVD par Ciné Tamaris et Arte Vidéo. On se souviendra aussi qu'il a été le dernier film projeté au cinéma La Clé pendant son évacuation par les forces de l'ordre le 1er mars dernier. Pour en savoir plus sur Agnès Varda, on ne saurait trop vous recommander la lecture de Agnès Varda, Le cinéma et au-delà, livre collectif auquel vous avez tous deux participé aux presses universitaires de Rennes. Quant au livret pédagogique de Bernard Bastide sur Cléo de 5 à 7, c'est chez Canopée. Et puis bien sûr, pour la suite de la filmographie d'Agnès Varda, on vous renvoie au plan large que nous lui avions consacré, Agnès Varda, la documenteuse. C'était le 29 décembre 2018. À la prise de son aujourd'hui, Olivier Dupré. Cette émission était préparée par Marceau Vassy et réalisée par Vivian Lecuivre.
Sans toi, sans toi. toi, sans toi.